Chers auditeurs de Radio Grand Ciel, bonjour. Claire Tiercelin vous retrouve aujourd'hui pour la demi-heure mensuelle de l'association Église ouverte en Eure-et-Loire. Nous allons évoquer Saint-Martin, dont plusieurs églises du diocèse portent le nom ou dont il est le saint patron. Pour cela, j'ai invité M. Charles Jobert, amateur très éclairé en patrimoine et particulièrement en patrimoine religieux. Monsieur Jobert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également président de notre association Église ouverte en Eure-et-Loire et je suis heureuse de vous accueillir aussi à ce titre. Si nous évoquons Saint-Martin aujourd'hui, c'est parce que nous fêtons cette année le 1700e anniversaire de sa naissance et qu'il jouit d'un culte tout particulier. Monsieur Jobert, ce Martin né en 316 de notre ère, un personnage hors du commun.
Tout à fait. Alors évidemment, on peut être étonné de constater qu'un Hongrois, enfin on peut dire ça simplement, aujourd'hui c'est la Hongrie, ait pu évangéliser les Gaules au IVe siècle. Tout cela est dû en réalité à l'histoire et à l'expansion de l'Empire romain. Car la Hongrie était effectivement intégrée dans l'Empire romain. La Gaule, bien entendu, avait été aussi entièrement conquise par les Romains. Et ce garçon, à l'âge de 16 ans, a été enrôlé dans l'armée romaine, car son père lui-même était un vétéran de l'armée romaine. Et c'est comme ça que, évidemment, il s'est retrouvé, comme on dirait aujourd'hui, dans un terme un peu moderne, affecté dans les Gaules. Et plus précisément, en garnison à Amiens. Et c'est là qu'il s'est retrouvé, alors qu'il avait à peu près 22 ans, en 338-339 à peu près, d'après ce que nous le dit Sulpice Sévère, qui a été l'historien de Saint-Martin. Et c'est grâce à Sulpice Sévère, qui a écrit la vie de Saint-Martin dès le IVe siècle, qu'on connaît tous ces épisodes. Donc Sulpice Sévère rappelle que Martin était en garnison à Amiens durant l'hiver 338-339, et il a rencontré, à la porte de la ville, un pauvre mendiant grelottant de froid. Cet homme charitable, qui n'était pas encore baptisé à l'époque, a eu pitié de lui et a coupé la moitié de son manteau pour le donner aux pauvres. Alors évidemment, cela suscite quelques interrogations. Certains esprits bien pensants ont dit « Mais comment se fait-il que ce saint si charitable n'ait donné que la moitié ? Il aurait pu donner l'ensemble de son manteau si vraiment il avait été aussi charitable que cela. » Or, il faut savoir que les officiers ou les soldats de l'armée romaine ne possédaient que la moitié de leur équipement, l'autre moitié appartenait à l'État romain. Donc, il ne pouvait donner que ce qui était à lui, en l'occurrence, la moitié de son manteau. Voilà la raison, effectivement, de cette découpe qui a été faite à l'épée, nous rapporte évidemment la tradition.
Alors, le nom de Martin revient dans de nombreux noms et prénoms, ainsi que dans le nom de multiples villes et villages en Eure-et-Loire et ailleurs.
Alors évidemment, le culte de Saint-Martin, si vous voulez, s'est développé non pas parce qu'il a eu cet acte de charité extraordinaire, bien que ça ait participé bien entendu à sa notoriété, mais c'est parce qu'effectivement, il a été en fait l'évangélisateur des campagnes gauloises. Alors, au IVe siècle, l'évangélisation de la Gaule, bien entendu, a commencé. Il y a des évêques, il y a des cités épiscopales, etc. On le sait, ça vient de Provence, ça remonte, Lyon, Paris, évidemment, Chartres et autres. Mais il n'y avait pas encore beaucoup de christianisation parmi les populations des campagnes. Donc, ce que va faire Martin, c'est une œuvre de mission. C'est une œuvre d'évangélisation. Il va évangéliser les paysans des campagnes de Gaule. Et c'est ce qui va faire en fait sa notoriété, parce qu'il va créer un nombre considérable de paroisses, et on peut dire que beaucoup des paroisses créées aujourd'hui sont ni plus ni moins que nos communes d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un lien très fort entre ce qu'il a fait pour les paroisses au IVe siècle et la carte administrative des communes françaises du XXIe. Alors ce nom de Martin, bien entendu, il s'est considérablement répandu. C'est le patronyme, comme vous le disiez très bien à l'instant, le plus répandu de France. Depuis 1890, on compte, d'après les statistiques des généalogistes, 228 857 Martin en France, famille Martin. Par ailleurs, nous avons en plus tous les dérivés, c'est-à-dire Martin a donné Martinet, Martineau, Martinez et j'en passe. Un tas donc de patronymes dérivant de Martin. Et ce nom de Martin est représenté pratiquement dans tous les départements français, 102 départements, donc il y a des Martins absolument partout. Ça, c'est le nom, mais il y a aussi le prénom. Alors, le prénom de Martin, curieusement, là, vous savez, les prénoms, ça subit des modes. Hein. Alors, Jules a été très à la mode à la fin du 19e, c'est tombé complètement dans l'oubli, c'était complètement démodé dans les années 60-70, et ça revient. Ben, Martin, c'est un peu pareil. Martin avait été, évidemment, un petit peu démodé. Il y avait environ 250 enfants prénommés Martin en 1980. Et on est passé en 2013 à 1800. On est donc passé entre 1980 et 2013 de 250 à 1800 petits bébés prénommés Martin. Et puis il y a les toponymes. Alors c'est ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire les lieux qui portent le nom de Martin. Alors en France, aujourd'hui, il y a 241 communes qui portent le nom de Saint-Martin, alors c'est pas Saint-Martin tout court, hein, c'est Saint-Martin quelque chose hein, la plupart du temps, est réparti dans 77 départements. Et puis on en vient évidemment à nos églises, pas à nos paroisses, parce que ça c'est différent, la notion de paroisse est plus restreinte que celle d'église. Les églises, on en compterait aujourd'hui environ 3672. Donc là, c'est une statistique extrêmement précise. Sachant que les diocèses les plus riches en vocable de Saint-Martin sont les diocèses du Nord. On en compte 157 à Arras, on en compte 158 à Soissons. 158 églises vocables de Saint-Martin à Soissons, 157 à Arras, 148 à Amiens. Alors nous, à Chartres, on est un petit peu en arrière, on en a quand même pas mal, mais on en a simplement une soixantaine, à peine, 57, pas plus. Voilà.
De nombreuses fêtes sont associées au nom de Saint-Martin.
Alors voilà, alors effectivement, quand on parle de culte, le culte s'établit autour d'un saint, bien entendu, autour d'un tombeau et autour d'une fête commémorée tous les ans. La Saint-Martin, dans le calendrier liturgique actuel, est au 11 novembre. Le 11 novembre, c'est ce qu'on appelle la dies natalis, c'est-à-dire la naissance au ciel, puisque la tradition catholique veut qu'on fête un saint le jour de sa mort, puisque c'est là où il naît véritablement au ciel. Il est mort le 8 novembre et aurait été inhumé le 11. 397, je précise bien. Donc, première date, 11 novembre, mort de Saint-Martin en 397. Mais aussi, on a le 4 juillet. Le 4 juillet, c'est la date de son ordination épiscopale comme évêque de Tours. Mais c'est aussi la date de la consécration de la basilique de Tours en 1008. Si bien que nous avons communément deux grandes fêtes de Saint-Martin, celle qu'on appelle la Saint-Martin d'hiver, bien entendu, ou d'automne, le 11 novembre, et puis celle du 4 juillet qu'on appelle la Saint-Martin d'été. Mais il y a également une Saint-Martin le 12 mai, qui est la date du grand miracle opéré par les reliques de Saint-Martin en 903, qui a repoussé l'invasion normande à Tours. On a également le 1er décembre, c'est la translation du chef de Saint-Martin, c'est-à-dire de sa tête, du reliquaire de sa tête, et le 13 décembre, où l'on fête le retour des reliques de Saint-Martin à la suite des invasions normandes, parce qu'on avait mis évidemment à l'abri pendant les invasions normandes, loin de Tours, les reliques du saint pour qu'elles ne soient pas prises par l'ennemi. Elles sont revenues en 912, le 13 décembre. Donc tout cela constitue, dans les documents que nous avons, des fêtes de Saint-Martin.
Alors, Saint-Martin est associé également à de nombreuses traditions populaires.
Alors, les traditions populaires, elles sont liées aux fêtes. On parlait des fêtes, donc quand on fête Saint-Martin, on fait un certain nombre de choses. Alors, en particulier, le feu de la Saint-Martin. Alors ça, c'est très peu connu parce qu'en réalité, on parle toujours du feu de la Saint-Jean, le 24 juin, le jour de la nativité du précurseur. Mais il existait aussi dans nos campagnes, et on en a vraiment des attestations, un feu, on faisait un grand feu et on dansait autour. Et bien entendu, c'était plutôt à la Saint-Martin d'été, évidemment, ça convenait mieux, c'était plus approprié, le 4 juillet. Et il y avait effectivement, dans les fêtes de la Saint-Martin, des festins, bien entendu, des repas plantureux, puisque les Gaulois aiment bien manger. Et il y avait une tradition culinaire qu'on appelait l'oie de la Saint-Martin. Alors, il y a une recette d'oie, n'est-ce pas, qu'on trouve en particulier en Belgique, à Liège. Une recette d'oie de la Saint-Martin. Et pourquoi l'oie? Alors, la réponse, on la trouve là encore dans Sulpice Sévère. Alors, on sait très bien qu'effectivement, ce pauvre Martin, qui était ermite, qui était un moine, qui était aligugé, qui voulait vivre face à Dieu dans la solitude totale, bien entendu, loin du monde, on a été le chercher. Et ce sont les gens de Tours qui l'ont fait évêque. Et alors, pour évidemment échapper à ces Tourangeaux qui voulaient le faire évêque, il s'était caché au milieu d'un troupeau d'oies. Alors, c'est effectivement une anecdote extrêmement amusante. Et on a rappelé cela, d'une certaine manière, par l'oie de la Saint-Martin. Et l'oie est devenue un peu l'animal emblématique de Saint-Martin. Et on retrouve ça, d'ailleurs, dans l'iconographie du Moyen-Âge, où on représente parfois, évidemment, comme dans un vitrail, d'ailleurs, de l'église Saint-Pierre de Dreux, l'évêque Martin priant, et il y a au-dessus de lui une oie sauvage qui est en train de voler dans le ciel. Voilà donc pour les traditions et fêtes populaires. On a aussi le vin de la Saint-Martin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on fêtait souvent la fin des vendanges, mais surtout la mise en tonneau, le 11 novembre. Bon, les vendanges étaient bien achevées quand même à ce moment. Mais il y avait une fête des vignerons de la Saint-Martin. Et un tableau de Peter Bruegel, rien que ça, hein, le fameux Bruegel, représente précisément une fête de du vin de la Saint-Martin.
Merci pour cette anecdote à propos des oies. Pendant cette pause, vous nous proposez une illustration musicale tout à fait appropriée à notre propos.
Alors nous entendrons effectivement une hymne, l'hymne des Vêpres de Saint-Martin, puisqu'on a composé un office spécialement pour la fête de Saint-Martin. Et cet hymne sera interprété par les moines de Ligugé, Ligugé qui est l'abbaye de Saint-Martin, qu'il a créé au IVe siècle. Alors je vous donne les tout premiers strophes de cet hymne. Ce bienheureux confesseur du Seigneur, dont l'univers célèbre la fête, aujourd'hui joyeux s'est élevé dans les arcanes du ciel. Souvent à son tombeau sacré, les membres des infirmes, quelle que soit leur maladie, recouvrent la santé. Et nous verrons là évidemment une allusion au thaumaturge.
Salam Gloriae in Deo.
Très.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Grand Ciel. Claire Tiercelin vous retrouve aujourd'hui pour la demi-heure mensuelle de l'association Église ouverte en Eure-et-Loir. Nous évoquons aujourd'hui la vie de Saint-Martin, dont plusieurs églises du diocèse portent le nom, ou dont il est le saint patron, et aussi parce que nous fêtons cette année le 1700e anniversaire de sa naissance. Martin, soldat romain, puis ermite et évêque de Tours. Un itinéraire hors du commun pour cet homme né en Hongrie en 316. Alors, Charles Jobert, vous nous avez donné des précisions très intéressantes sur le rayonnement du saint. Vous allez évoquer maintenant son rôle, si on peut dire, de guérisseur.
Alors effectivement, c'est lié en fait à sa charité. Parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est emblématique de Saint-Martin, sa charité. C'est-à-dire couvrir un pauvre, évidemment, qui a froid l'hiver aux portes d'Amiens. Et cette charité, eh ben, elle va se prolonger par la guérison des malades, c'est-à-dire la pauvreté de la maladie, en quelque sorte. Et Sulpice Sévère, toujours lui, qui relate sa vie, rapporte évidemment un grand nombre des miracles opérés par Saint-Martin durant sa vie terrestre. Il aurait même ressuscité, paraît-il, des enfants. Il aurait guéri des lépreux, etc. Comme le Christ lui-même l'a fait, d'ailleurs. Puisque le saint, c'est celui qui continue d'une certaine manière l'œuvre du Christ sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. Et puis, le saint continue son œuvre de guérison au-delà de la mort, car bien entendu, du ciel, il continue à veiller sur les hommes. Donc, le saint est un protecteur, et c'est aussi un intercesseur, bien entendu. Saint protecteur, saint intercesseur. Comme protecteur, on l'invoquait, bien évidemment, contre certains types de maladies. Alors, là, c'est très varié et ça dépend un peu en fonction des régions. Une chose est certaine, c'est que le culte de Saint-Martin comme guérisseur est lié à deux éléments naturels, comme d'habitude, la pierre et l'eau. Il y a de nombreux lieux où existent des pierres de Saint-Martin. Alors, la pierre Saint-Martin, elle est très connue d'ailleurs, puisque c'est une grotte très très célèbre, hein, effectivement, dont on parle assez souvent. Et ce n'est pas la seule. Il y a de nombreux endroits qui ont le nom de pierre Saint-Martin. Et sur ces pierres, on venait porter les enfants pour les guérir d'un certain nombre de maladies. C'est ainsi qu'effectivement, l'on voit un endroit où on invoque Saint-Martin contre la teigne et les maladies de peau dans le Gard. On invoque aussi Saint-Martin quand les enfants ont des difficultés pour marcher, ou ont des rhumatismes dans la Vienne. Et puis il y a aussi les sources et les fontaines, où on vient effectivement boire de l'eau pour se guérir d'une certaine maladie. En Maine-et-Loire en particulier, il y a des sources ou des fontaines où on vient effectivement pour se guérir de certaines fièvres. En Ardèche également, là encore, les maladies de la peau. En Seine-et-Marne, les maladies cutanées, à Torigny, à Voulanges et dans d'autres paroisses de ce diocèse de Meaux. Et puis on invoquait aussi Saint-Martin pour avoir de la pluie. Ça c'est très classique et très connu. En période de sécheresse, on invoquait Saint-Martin, on processionnait avec les reliques dans les champs calcinés par la sécheresse pour obtenir de l'eau. Voilà, donc Saint-Martin est un saint guérisseur, un saint qui est invoqué pour un certain nombre de maladies, surtout d'ailleurs pour les enfants. Donc le saint, il est invoqué pour venir guérir.
Alors Saint-Martin, cet homme aux multiples facettes, est aussi le patron de métiers et de corporations. Pouvez-vous nous en dire un mot ?
Alors justement, après le saint qu'on invoque pour être guéri, on invoque le saint pour être protégé. Donc, saint guérisseur et suite saint protecteur. Protéger un certain nombre d'individus, un certain nombre de corporations ou de métiers. Alors, évidemment, les saints protecteurs ont toujours un rôle de protecteur en rapport avec le métier qu'ils ont exercé en général, la profession qu'ils ont eue comme Saint-Éloi, qui a été forgeron, par exemple, bon. Ou en raison, évidemment, de leur supplice, de leur martyre. Saint-Martin, nous l'avons vu, c'est avant tout un cavalier. Et c'est comme cavalier qu'il est apparu, bien entendu, aux portes d'Amiens. Il était à cheval, ne l'oublions pas, puisqu'on voit toujours Martin sur son cheval qui coupe le manteau. Donc, il est, bien entendu, en premier lieu, le patron des cavaliers. Il ne sera pas le patron des fantassins, c'est-à-dire de ceux qui marchent à pied, généralement. Il y en aura d'autres pour cela. Mais il n'empêche que le vocable, ou le patronage plutôt en l'occurrence, s'est étendu à pas mal de militaires. Et aussi aux gardes pontificaux. Les gardes pontificaux, si connus, si célèbres, ont comme patron, entre autres, Saint-Martin. Les policiers de France ont aussi, évidemment, comme patron, le grand Saint-Martin. Et alors, une curiosité très locale, celle-là, c'est les vignerons. Alors, on sait tous que les vignerons ont un saint patron qui s'appelle Vincent. Oui. Puisque, bien entendu, là, c'est le patronyme qui a créé le patronage. Enfin, rapidement, je rappelle que Vincent, c'est constitué de vin et de sang. Donc, le vin et le sang du Christ, qui, évidemment, est dans le vin qui est transformé à la messe. Voilà. Donc c'est pour ça que Vincent est le patron des vignerons, en raison de son nom, tout simplement, sang et vin. Lui, Saint-Martin, on ne sait pas trop pourquoi, il a été effectivement un petit peu mis sur les autels par les vignerons corses. Alors, les vignerons corses, Bastia en particulier, ont Martin comme patron, bon ça ne s'explique pas trop, en revanche, patrimoniaux. Patrimonio, c'est une ville corse. Patrimonio, c'est un vignoble corse très connu et très réputé. Et alors, il y a une petite légende qui rapporte que Saint-Martin serait allé en Corse. Alors ça, on n'a aucune preuve de la chose. Ça m'étonnerait un peu d'ailleurs, puisqu'il était plutôt un homme du nord de la Loire et du Poitou, bien évidemment. Mais de la Corse, ça paraît un peu plus douteux. Mais il n'empêche que la légende rapporte qu'il serait allé là-bas, en Corse. Et qu'un jour, il serait arrivé dans la vallée de ce qui allait devenir patrimoniaux, mais qui ne s'appelait pas encore comme ça. Et il aurait déclaré, ce brave Saint-Martin, « Voici mon patrimoine » en désignant cette grande vallée. Et patrimoine a donné patrimoniaux. Et évidemment, patrimoniaux, les vignobles et le Saint-Patron Martin des vignerons de patrimoniaux. Voilà l'histoire.
Et les pèlerinages en son honneur, vous pouvez nous
alors,
en dire un petit mot.
Alors, bien entendu, un saint guérisseur, un saint patron, eh bien, on va sur son tombeau. Alors, évidemment, comme vous le savez, nous l'avons dit à l'instant, il a été inhumé à Tours. Alors, à cette occasion-là, on parlait du culte de Saint-Martin, et on parlait évidemment de tout ce qui entoure, dans le folklore français, le nom de Martin. Il y a une expression que tout le monde connaît, et qui a une grande importance encore, l'été de la Saint-Martin. Alors l'été de la Saint-Martin, c'est un miracle qui s'est produit au moment de sa mort. C'est-à-dire qu'en fait, Saint-Martin est mort à Cande, sur les bords de la Loire, c'est peut-être à 30 ou 40 kilomètres d'ailleurs en aval de Tours, mais c'est que les Tourangeaux n'ont pas laissé le corps de Martin à Cande, ils ont voulu le récupérer. Si bien que le corps de Martin a été transporté par voie d'eau de Cande à Tours. Et le bateau qui transportait le corps de Martin, évidemment, a remonté la Loire. Et en ce 11 novembre 397, les arbres des rivages de la Loire ont refleuri au passage du corps de Saint-Martin. Et ce miracle absolument merveilleux, ce miracle extraordinaire, eh bien, a donné naissance à l'expression « l'été de la Saint-Martin ». C'est cette espèce de période plus douce, n'est-ce pas, vers le 8, 9, 10, 11 novembre, qui s'est illustrée par le fleurissement des arbres sur le passage du corps de Saint-Martin. Voilà. Donc, Saint-Martin s'est retrouvé à Tours, il a été inhumé là, et puis, bien entendu, ça a eu un succès absolument considérable. L'évêque Perpète, qui était évêque de Tours, a dû, en 471, construire une église beaucoup plus importante. Et puis, ça n'a pas encore suffi. Il a fallu construire encore une autre église. Et c'est celle dont nous avons parlé tout à l'heure, celle qui a été consacrée le 4 juillet 1008. Alors, c'était un ensemble considérable qui avait un nom qu'on appelait la Martinopole. Alors c'est un nom en fait très moderne, parce qu'on utilise beaucoup ce thème de Paul aujourd'hui, Paul plutôt. Martinopole, c'est tout simplement un complexe, comme on dirait aujourd'hui, composé de la basilique, bien évidemment, mais composé également des bâtiments conventuels, des chanoines ou des moines qui desservaient l'église, et puis d'oratoire, et puis d'une hôtellerie, parce qu'il fallait bien accueillir évidemment les pèlerins, et puis d'écuries, parce qu'il fallait bien mettre leurs chevaux, et de magasins, parce qu'il fallait bien qu'ils s'approvisionnent, etc. Donc une véritable Martinopole qui s'est développée, n'est-ce pas, à Tours, et qui comportait le deuxième pôle de la cité, évidemment, Tourangelle, parce que la cité de Tours composait de deux pôles. La cathédrale d'un côté qui se trouve vers l'est, et la basilique Saint-Martin qui se trouve à l'autre extrémité du côté de l'ouest. Donc c'était un pôle très important. Et c'était un lieu si important que les rois de France, bien entendu, étaient des pèlerins très attentionnés de Saint-Martin. Les rois de France étaient premiers chanoines de Saint-Martin. Ils ont été même abbés de cette abbaye parce que, bien entendu, ils en prélevaient les revenus. Ça, c'est très connu et c'est très classique. Tous les grands rois de France ont été en pèlerinage, bien entendu, à Tours. Et puis, on sait malheureusement que cette pauvre basilique a subi bien des avatars. Alors, premier avatar considérable, c'est le ravage du 25 mai 1562. Le 25 mai 1562, les troupes huguenotes, effectivement, déferlent sur Tours, et les huguenots ne faisaient pas de quartier, ils détruisaient tout, ils brûlaient tout, ils incendiaient tout, et ils ont effectivement pillé la basilique, ils ont incendié tout le mobilier, ils ont brûlé également les reliques, et ça a été une dévastation absolument totale. Heureusement, la paix est revenue, on a relevé les ruines, on a reconstruit comme on a pu le bâtiment, et malheureusement, deuxième épisode malheureux, c'est 1797, là où évidemment c'est vendu comme bien national, et quand on fait évidemment une vente de bien national, on a un acquéreur, et l'acquéreur c'est un maçon ou quelqu'un qui fait commerce de la pierre. Donc on commence à démolir systématiquement l'église, et la pauvre basilique, elle a été pratiquement totalement réduite à néant. Il ne subsiste de la basilique ancienne que deux éléments qu'on connaît bien, c'est la tour Charlemagne et la tour de l'horloge qui dominent encore Tours. Et puis alors, ce qui est merveilleux, c'est qu'on a retrouvé presque miraculeusement les reliques de Saint-Martin, en 1860 seulement. Un érudit qui s'appelle Léon Papin Dupont était passionné de Saint-Martin et il a dit « Mais moi, je vais retrouver le tombeau de Saint-Martin, il doit être en dessous quelque part, parce que c'était dans la crypte, et la crypte, en général, on ne détruit pas les cryptes, c'est très difficile. » Il a acheté trois maisons canoniales qui avaient été reconstruites et il a fait faire des fouilles. En 1860, on a retrouvé au miracle la crypte et les reliques de Saint-Martin. Et c'est sur ces reliques de Saint-Martin qu'on a reconstruit l'église actuelle entre 1885 et 1902, la basilique que nous connaissons tous, qui a été construite par Victor Laloux dans le style néo-byzantin.
Notre émission se termine. Merci, Monsieur Jobert, de nous avoir fait vivre avec passion l'histoire de Saint-Martin, que la plupart d'entre nous ne connaissaient que par l'épisode du manteau, sa mission d'évêque de Tours ou comme apôtre des Gaules. Amis auditeurs, si vous voulez réécouter cette émission, elle sera disponible à compter de la semaine prochaine sur le site Radio Grand Ciel et très rapidement sur le site de l'association Église Ouverte en Eure-et-Loire. Merci de votre fidélité et à bientôt, chers auditeurs.